Buongiorno, buongiorno, je vous expliquerai pourquoi après. Bienvenue dans cette nouvelle émission de 24 notes secondes sur Divergence FM, une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur les grands écrans pour notre plus grand plaisir depuis maintenant un peu plus d'un siècle. Et si je vous ai salué avec un buongiorno sans le bon accent, c'est que ce jour nous allons consacrer notre émission. Je m'en réjouis d'avance, j'espère que vous partagerez ce sentiment à un acteur italien né le 28 septembre 1925 et qui hélas n'est plus des nôtres maintenant. Il y a tellement de gens qui nous manquent, mais Marcello, tu ne manques plus que d'autres. Marcello Mastroianni, mais oui, lui, le seul, le vrai, l'élégance, le charme, l'intelligence, la beauté, l'humour incarné de ces acteurs absolument charismatiques qui font que parfois la vie vaut la peine d'être vécue. Donc nous allons évoquer assez rapidement, hélas, la carrière absolument éblouissante et avec un nombre de films absolument étonnant, presque impressionnant de Marcello Mastroianni, qui est né donc quelque part dans le Lazio, sauf erreur de ma part, c'est dans les environs de Rome, et qui donc après la guerre, puisqu'il est né en 1925, le pauvre, subit pendant sa jeunesse la Seconde Guerre mondiale, se fait remarquer par Luchino Visconti et débute au théâtre en 1948 aux côtés de Giulietta Massina, que nous allons retrouver dans quelques minutes. Son premier film quant à lui datait de 1947, ça s'appelait L'évadé du bagne. Alors ça n'avait pas l'air comme ça, mais en italien ça s'appelait I Miserabili, et oui, vous l'avez reconnu, c'était une adaptation des Misérables, il y en a eu tellement, sous la direction de Riccardo Freda. Ensuite, eh bien, il tourne des films avec des petits rôles avant de trouver une sorte de consécration en 1954 dans un film de Carlo Lizzani, Chronique des pauvres amants. Bon, je sais, l'accent est peut-être pas au bon endroit, mais j'aime tellement faire semblant de connaître l'accent italien. Chronique des pauvres amants, la preuve, Cronache di poveri amanti de Carlo Lizzani. Bref, un film où donc il le perce. C'est même presque étonnant qu'il ait fallu attendre 7 ans avant qu'on remarque combien Marcello était le plus beau, le plus grand, le plus doué de sa génération. Ensuite, eh bien, il enchaîne des rôles dans des films que, pour certains, je n'ai pas vus, mais il y en a au moins un que j'aimerais voir, qu'on prenne qui pourra. Ça s'appelait La fortuna di essere donna, La chance d'être femme, d'Alessandro Blazzetti, le bien nommé, suivi sur sa filmographie Il y a de ses ironies par le Bigam, Il Bigamo de Luciano Emer. On va écouter quand même un peu de musique, je ne vais pas vous imposer mon accent italien jusqu'au bout de cette émission. Et en l'espèce, eh bien, on va écouter la bande originale d'un film que Marcello Mastroianni, j'arrête après, tourna en 1960. Et en 1960, eh bien, il trouva son frère, son égo, son égal, l'âme sœur, si on peut dire ça, entre deux hommes, en l'espèce Federico Fellini, qui l'engagea pour le rôle principal. Alors en français, il paraît, ça s'appelle La douceur de vivre, mais qui connaît La Dolce Vita sous un autre titre que La Dolce Vita, un film donc qui réunissait dans les rôles principaux Anita Ekberg et Marcello Mastroianni, un film de plus de 2 heures absolument époustouflant. Allez, je vous en dirai quelques mots après, 2h30, je vous en dirai quelques mots après, mais on va écouter un extrait de la bande originale. Mais de qui est la bande originale? Mais de qui pourrait-elle être sinon de Nino Rota?
Thank you.
Voilà un extrait bondissant puis nostalgique de la bande originale de La Dolce Vita de Nino Rota de Federico Fellini avec Marcello Mastroianni. Bondissant et nostalgique, et eh bien c'était tout à fait ça, La Dolce Vita, un film fleuve, je vous l'ai dit, de 180 minutes, si je calcule bien, ça fait 2h40, mais il en paraissait 10, il en paraissait 15. Alors un film qui à l'époque fut un succès de scandale, il paraît que Fellini risqua l'excommunication. On se demande bien ce qu'il en avait à faire, mais peut-être, après tout, on ne sait pas trop. Un succès de scandale qui était largement un malentendu, puisqu'en fait, il s'agissait d'un film extrêmement sombre, une histoire décadente, avec des cadences, c'est mieux, avec des gens qui trônaient dans leur fortune absolument imméritée et qui surtout, promenaient leur vague à l'âme de visite de star hollywoodienne incarnée par Anita Ekberg en surprise partie dans des maisons luxueuses, le tout étant d'un ennui achevé. Il y avait un suicide, c'était celui d'Alain Cuny, il y avait une tentative de suicide, c'est celui de la petite amie de Marcello Mastroianni. Bref, dans cette douceur de vivre, il y avait plus de sombre et d'amer que de joie et de lumière, et c'était ce qui faisait tout le charme contrasté de ce qui reste comme un monument du cinéma fellinien. Je ne sais pas si c'est le meilleur film de Fellini, chacun en jugera à son goût, mais en tout cas, c'était un film absolument époustouflant dans lequel Marcello Mastroianni jouait le rôle de Marcello Rubini. J'arrête un peu et on se souviendra peut-être que c'est à l'occasion de ce film que Fellini lui-même inventa le nom de paparazzi pour désigner les photographes qui courent après les stars et notamment après Anita Ekberg qui se baignait, si l'on veut, dans la fontaine de Trévise. Mais sur ça, je reviendrai tout à l'heure, donc je ne déflore pas. Le film se terminait au petit matin dans une aube blafarde sur une plage où un groupe de fêtards désœuvrés contemplait le cadavre presque surnaturel d'un poisson mort, et cela symbolisait bien justement toute cette désespérance que Fellini avait su saisir au mieux, au plus juste, au plus amer en 1960, une époque certes de grands triomphes commerciaux. Nous étions en France, si je ne m'abuse, dans les 30 glorieuses, mais d'un point de vue moral et d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue sentimental, et bien le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'était pas la même chose. Bref, autant dire qu'en 1960, la carrière de Marcello Mastroianni, auquel nous consacrons cette émission de 24 notes secondes, était à son zénith. Quelques années précédemment, en tout cas, il avait notamment tourné en 1958 dans Le Pigeon de Mario Monicelli, encore un chef-d'œuvre d'humour. On l'avait vu toujours cette même année 1960 dans Le Bel Antonio de Mauro Bolognini, absolument délectable, et dans les années qui suivirent, on le vit dans des films plus ou moins bienvenus. Alors on pourra oublier Le Vie privée de Louis Malle en 1962, qui était une sorte de Dolce Vita du pauvre, avec Brigitte Bardot quand même. Par contre, cette même année 62, on pourra retenir le délicat et méconnu Journal intime, Cronaca familiare, du délicat et méconnu Valerio Zurlini, et puis l'année précédente surtout, eh bien, dans deux genres absolument différents, qui illustrent bien la diversité des talents de Marcello. On le vit dans l'un des rôles principaux de Divorce à l'italienne de Pietro Germi, j'en ai des frissons rien que de l'évoquer, et on le vit donc dans un genre complètement différent, dans l'un des rôles principaux de La Nuit, La Nottée de Michelangelo Antonioni, bien sûr. Autant dire que ce diable d'homme avait tous les talents, autant dire aussi qu'il avait trouvé ses cinéastes favoris, et c'est pour ça qu'il retrouva, et que nous allons le retrouver en 1963 avec un autre film de Fellini, ça s'appelait 8,5, et pourquoi 8 et demi, bien tout simplement parce que c'était le 8e film et demi, si vous comptez les courts-métrages de Fellini, et que l'histoire, eh bien, c'était celle de Fellini en train de tourner un film, et ça faisait un film. Bref, Marcello Mastroianni, qui dans 8 et demi, 8 et mezzo, jouait le rôle d'un cinéaste, eh bien, jouait rien moins que le rôle de Federico Fellini. Il était entouré de créatures toutes plus somptueuses les uns que les autres, ce qui ne faisait qu'ajouter au charme du dit film, et la musique était mais oui, vous avez suivi, la musique était forcément de Nino Rota, ça va vous rappeler quelque chose et vous direz « Ah, comme je suis bien dans Divergence FM » ou plutôt avec Divergence FM dans 24 notes secondes. Thank you. Même les craquements sont italiens, un extrait, la farandole de la bande originale de 8,5, un film de Fellini tourné en 1963. Ça servait en quelque sorte de conclusion à cette histoire introspective où l'on voyait un cinéaste angoissé à l'idée de tourner un film de science-fiction. Alors il retrouvait ses femmes, et quelles femmes, Anouk Aimée, Sandra Milo, Claudia Cardinale, Barbara Steele et quelques autres, et notamment la Salagnina, Edra Gall et ceux qui aiment Fellini sauront de qui je veux parler, avant que dans un final apaisé, et bien justement de retrouver tous ses compagnons de route et de les accompagner dans une farandole où un enfant vêtu de blanc joue du pipeau. Et cet enfant, et bien c'est le cinéaste, c'est lui, une histoire férocement régressive mais aussi férocement fantastique qui pour les puristes inaugurait chez Fellini une veine fantastique qu'il continua ensuite de creuser, pas toujours avec le même bonheur que dans 8,5, pas toujours avec le même bonheur qu'avec Nino Rota et pas toujours avec le même bonheur qu'avec Marcello Mastroianni, auquel nous consacrons cette émission Enamourée de ce jour, et qui tenait donc le rôle principal de ce film. Dans les années qui suivirent, eh bien Marcello continua à prouver l'éclectisme de son talent et aussi de ses ambitions, car ce ne sont pas forcément tous les acteurs qui acceptent de jouer certes dans un film de Luchino Visconti, mais adapté d'Albert Camus, L'étranger, en 1967. Quelque chose d'un peu étrange, mais aussi d'un peu improbable. Il n'était pas forcément certain qu'on pouvait adapter L'étranger de Camus au cinéma. On le vit aussi dans beaucoup de comédies, comme La femme du prêtre avec Sophia Loren, quasiment l'une de ses partenaires de toujours, de Dino Risi, en 1970, drame de la jalousie d'Ettore Scola. Toujours cette même année 70, on le vit dans des films beaucoup plus sombres, comme Ça n'arrive qu'aux autres, de Nadine Trintignant en 72, Lisa avec Catherine Deneuve, de Marco Ferreri cette même année, je resterai discret forcément, sur la vie privée de Marcello. Et on le vit aussi dans son propre rôle, et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de La Fontaine de Tréville, dans un film de Ettore Scola, un des chefs-d'œuvre d'Ettore Scola, C'eravamo tanto amati, Nous nous sommes tant aimés, un film tourné en 1974 et qui racontait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70, le destin entrecroisé de quelques personnages. Et parmi ces personnages, eh bien, il y en avait un qui assistait ce jour-là au tournage autour de la fontaine de Trévise, eh bien, au tournage de la fameuse scène de la Dolce Vita. Et évidemment, Federico Fellini et Marcello Mastroianni, je crois que c'était un sosie d'Anita Ekberg, avaient accepté de faire ce qui est toujours étrange, le film dans le film. Et en plus, c'est un vrai film dans un vrai film. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Une scène tout à fait nostalgique, en tout cas en 1974, ça faisait déjà 15 ans, vous l'avez calculé, que la Dolce Vita avait été tournée et la Fontaine de Trévise était devenue, et est toujours, j'en atteste, un icône cinématographique ou une icône cinématographique, je ne sais trop. Les gens continuent à tourner le dos et à jeter dedans des pièces venues de par le monde qui, d'après la rumeur, sont le soir ou le matin, je ne sais trop, récupérées pour les nécessiteux de Rome, ma foi. C'est plutôt bienvenu. Voilà, donc Ettore Scola avait souhaité rendre cet hommage à Marcello et à Fellini. Et pour la musique de ce film, eh bien, c'était Armando Trovajoli qui l'avait composé. Et nous allons en écouter un petit extrait. un extrait bien nostalgique d'un film qui n'était pas moins une musique d'Armando Trovajoli pour un film d'Ettore Scola tourné en 1974 d'après un scénario co-signé par Ettore Scola et Adje Scarpelli. Nous nous sommes tant aimés, je ne vous le referai pas en italien, où l'on voyait Marcello Mastroianni et Federico Fellini, et aussi dans une autre scène, Vittorio De Sica dans leur propre rôle, et pour ce qui s'agit de Mastroianni, dans le rôle qu'il jouait dans la Dolce Vita, que nous avons déjà évoqué dans cette émission de 24 notes secondes, dont je n'arrive pas à croire qu'elle touche presque à sa fin, alors qu'il resterait tant à dire sur Marcello et tant de films à évoquer. Je voudrais, dans les années qui suivirent, nous nous sommes tant aimés, n'en retenir qu'un seul ou deux. Et en tout cas, la journée particulière du même Ettore Scola que Mastroianni, dans lequel, pardonnez-moi, Mastroianni partagea l'affiche avec Sofia Loren. Il tourna beaucoup de films avec Sofia Loren et pratiquement que du bon. Voilà, je cherchais ma petite fiche, c'était en 1977. Et puis aussi, mais alors là c'est vraiment par préférence, un film beaucoup moins connu, un film tourné en 1981 de Dino Risi qui s'appelait Fantôme d'amour, Fantasma d'amore, une histoire vraiment sombre et nostalgique qui prouve l'étendue du talent de Marcello Mastroianni. Je n'arrive pas à croire que Marcello nous a quittés le 19 décembre 1996, déjà tant d'années. Cela me semble hier avec les gens qu'on aime. Quand vous les quittez, quand ils vous quittent, quelle que soit la façon dont ils le font, eh bien c'est comme si c'était hier, souffrance et plaisir mêlés. C'est de ça qu'il s'agit avec Marcello et on peut, grâce au cinéma, le voir et le revoir encore. Il n'y a pas d'acteur, mesdames et messieurs, qui puisse égaler tant de charme. Voilà, le charme, dans tous les sens, y compris fantastique du terme, définit ce qu'était, ce que sera toujours Marcello Mastroianni. Et nous allons bien sûr conclure cette émotion, oh comme c'est beau, avec une musique de film, et c'était pas exprès en plus, un film toujours d'Ettore Scola, tourné en 1982. Ça s'appelait La Nuit de Varennes, et comme son titre l'indique à ceux qui ont suivi quelques cours d'histoire de France, eh bien, ça racontait la fuite du roi, oui, le roi, à Varennes avec quelques personnages, et notamment, alors là, dans une pure fiction, Rétif de la Bretonne, un écrivain interprété par Jean-Louis Barrault, et Marcello Mastroianni dans le rôle de Casanova. Mais oui, bien sûr, qui d'autre, à part Donald Sutherland dans un film de Fellini plutôt bienvenu, qui d'autre pouvait interpréter le rôle de Casanova, du chevalier de Saint-Galt vieillissant, dans cette diligence dans laquelle on trouvait aussi, excusez du peu, il devait y en avoir plusieurs, Anna Chigoula, Harvey Keitel, Jean-Claude Briady, Daniel Gélin, etc., etc. Le temps me manque et je préfère vous laisser écouter un extrait de cette bande originale. Elle était à nouveau signée d'Armando Trovajoli, qui fut l'un des compositeurs favoris d'Ettore Scola. Allez, une émission sur Ettore Scola, un séjour. Un extrait donc, nostalgique ou pas, de La Nuit de Varennes, un film d'Ettore Scola tourné en 1982 sur Divergence FM. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Arrivederci!